Nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un phénomène. Alors déjà, ça va s'adresser beaucoup plus à des personnes qui sont un petit peu suivies sur les réseaux sociaux, qui ont déjà atteint un petit niveau physique, un certain niveau, enfin voilà, qui essaient de faire un petit peu les choses correctement et qui sont face à un bug. C'est le bug de la double vie, j'appelle ça. Pourquoi le bug de la double vie? Parce que, et en fait, finalement, c'est des gens qui n'existent nulle part, ni dans la première, ni dans la deuxième vie. Et je m'explique. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un rythme de vie public. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, les personnes vont poster des bons repas, un style de vie avec beaucoup de sport, où ils bougent, où voilà, ils ont une vie qui est exemplaire, une vie qui est finalement à la mode. C'est la mode aujourd'hui d'avoir un style de vie qui est vachement santé, vachement sain, vachement sportif, tout dans la beauté, tout dans l'esthétique, etc. Et voire même maintenant certains dans les belles pensées, dans ce qui est développement personnel, je suis zen, etc., etc. Bref. Donc ça, c'est un premier mode de vie pour une personne, et il y a le deuxième mode de vie pour la même personne, qui est le mode de vie réel, c'est-à-dire le mode de vie de l'être humain, le vrai être humain, c'est-à-dire celui qui existe depuis des centaines de milliers d'années, je pense. Je sais pas si on pourrait dire comme ça, mais en fait, c'est ce mode de vie où, dans la réalité, la personne a des moments forts, des moments intenses, des moments de plaisir et des moments de creux de vague, des moments un petit peu plus difficiles, des moments avec des doutes, des moments avec des faiblesses, avec parfois même de la tristesse, des choses comme ça. Et ben ça, c'est la vraie vie. Malheureusement, je vais pas vous l'apprendre. C'est comme ça que s'il n'y avait pas ces creux de vague, ces moments où de doute, ces moments de faiblesse, comment on ferait pour apprécier les bons moments? Et essayer de supprimer ça artificiellement, eh ben, ça crée quelque chose qui est inaccessible pour ceux qui suivent ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, mais regarde, cette personne, ça a l'air d'aller toujours bien, ça a l'air de, elle fait toujours la diète, c'est nickel, c'est carré, elle s'entraîne tout le temps, on dirait qu'elle a tout le temps la pêche, donc c'est possible, et moi, dans mon coin, j'y arrive pas, pourquoi j'ai un problème? Mais non, personne n'a de problème. C'est juste que la facette que montre cette personne est uniquement, quand elle est au sommet de la vague. C'est-à-dire quand elle se sent bien dans son corps, quand elle a mangé quelque chose de sain, quand voilà. Et alors bon, il faut avoir suffisamment de recul pour réussir à comprendre que la mode influence beaucoup plus le style de vie sain, etc., que le style de vie normal, c'est-à-dire le style de vie avec ses hauts et ses bas. Donc c'est-à-dire on peut avoir très bien un mode de vie sain. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai posté sur les réseaux en termes de nutrition, vous voyez ce que je mange au quotidien, comment je m'entraîne et tout ça. Mais moi, je vais lancer le bal tout de suite, hein. Comme ça, au moins, peut-être que ça aidera certains à se lancer aussi. J'ai des moments où j'ai des putains de creux de vague, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où aller s'entraîner, ben, j'ai pas envie, c'est dur, c'est difficile, je suis fatigué. Bon, j'y vais mécaniquement parce que c'est une passion et c'est aussi quand même mon gagne-pain. Mais quand même, j'ai des moments où il y a des creux de vague. Mais après, il y a des moments où c'est l'euphorie totale. Et d'ailleurs, ça domine sur l'année par rapport aux creux de vague. Mais c'est normal, c'est être un être humain de réagir comme ça. Au niveau nutrition, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon, moi aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à mettre en place un style de vie alimentaire qui me conforte. C'est-à-dire que je ne suis pas frustré. Déjà, je ne suis pas au régime, donc ça aide. Personne qui est tout le temps au régime ou qui veut tout le temps compenser les écarts qu'elle fait durant la semaine par des journées où elle mange que dalle et elle fait deux fois plus de sport. En fait, c'est un cercle vicieux qui crée de la dette et après qu'on essaye de compenser quand on manque de volonté. Et on retrouve souvent ça chez les personnes. On retrouve souvent un facteur, enfin pas un facteur, mais une récurrence chez les personnes qui fonctionnent comme ça. C'est que sur tous les repas qu'elles peuvent maîtriser avec beaucoup de volonté, exemple le petit déjeuner ou le repas du midi, elles vont se restreindre volontairement les calories parce qu'elles savent clairement que le soir elles craquent. Mais pourquoi elles craquent le soir? Tout simplement parce qu'elles ont peu mangé le midi et le matin. Parce que le midi et le matin, c'est beaucoup plus facile à elles, à ces personnes-là, de se retenir de manger. Elles ont beaucoup plus de volonté. Début de journée, comme j'ai expliqué dans mes vidéos sur le sommeil régule, régénère, digère les informations de la veille. On démarre la journée avec une dose de volonté, une dose de, on va dire, de courage, un petit peu plus élevé. Donc en début de journée, c'est beaucoup plus simple. Et puis on a les activités de la journée qui nous stimulent, qui nous prennent de l'occupation, donc on pense moins à manger. Mais par contre, le soir, quand on s'est tapé une ou deux séances de muscu, ou une ou deux séances de sport, ou quoi au caisse, ou une journée bien active, et qu'on a consommé un petit déjeuner léger et un repas du midi assez light et une petite collation light dans l'après-midi, même dans la matinée, on arrive le soir avec une dette de calories liée au manque d'aliments ingérés plus au sport. Forcément, le corps lui aussi manque de volonté, enfin le cerveau manque de volonté pour résister à la malbouffe. Donc du coup, on est et en dette d'énergie, donc le corps en réclame, et en dette de volonté parce qu'on l'a déjà épuisé. Ben, qu'est-ce qui se passe? On craque. Et comment on fait pour compenser quelque chose qu'on craque? Ben, le lendemain, on réduit encore plus le petit déjeuner, etc., etc. Bon, bref, je vais pas refaire une vidéo, enfin, un podcast sur les TCA, j'en ai déjà parlé. Mais pour vous dire une chose, c'est que moi, c'est pareil. Il m'arrive de manger, même en pleine semaine, de manger des choses qui rentrent pas dans un mode de vie diététique. Enfin, diète sain. Pourquoi? Parce que je vais être invité chez des amis, j'ai pas envie de dire non. Ou alors parce que, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de je sais, enfin bon, là, j'ai pas vraiment d'exemple, hein, malheureusement, mais ça m'arrive quand même de craquer. Par exemple, j'ai un exemple concret. Je prends un café avec un ami dans l'après-midi, un mercredi, donc je prends un jour au hasard. Ils mettent un petit gâteau avec le café. Eh ben, une fois sur 10, le petit gâteau va y passer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le prendre. Alors, est-ce que c'est une faiblesse ou pas? J'en sais rien. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Je culpabilise pas. Parce que ça, je l'accepte. Je l'accepte, je le dis, je l'assume, j'en ai rien à foutre. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont une double vie, c'est-à-dire une vie où elles craquent, elles n'arrivent pas à avoir le mode de vie sain qu'elles aimeraient, et la deuxième vie qu'elles affichent sur les réseaux sociaux où tout va bien, le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles existent dans aucune de ces deux vies. C'est-à-dire que la vie parfaite des réseaux sociaux, elles n'arrivent pas à la retranscrire dans leur vie privée. Donc elles se rendent bien compte qu'il y a un bug et que quelque part, ça met un petit, comme un bug au niveau du cerveau. Elles n'arrivent pas à suivre ce qu'elles montrent. Et à l'inverse, ce qu'elles font réellement dans la vie privée, elles pensent qu'elles ne pourraient pas le mettre publiquement. Mais à partir du moment où les résultats physiques ont été là, c'est bien qu'il y a eu un travail quelconque, il y a eu un travail, il y a eu un effort, il y a eu une certaine dose de volonté, il y a eu, enfin voilà, il y a eu tout un tas de choses positives qui ont été mises en place pour pouvoir avoir des bons résultats. Donc, afficher clairement aux yeux de tous qu'on arrive à avoir un bon physique, qu'on arrive à gérer son tour de taille, etc., et en même temps, en ayant des hauts et des bas dans sa vie privée, dans sa vie normale, dans la vie classique, ça encouragerait beaucoup plus de personnes à les suivre. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de s'identifier. Les gens ont besoin de voir que voilà, c'est pas la peine d'être Superman ou Supergirl pour réussir quelque chose. Et les gens ont besoin plus de voir les retours d'expérience négatifs des autres pour pouvoir s'identifier et se dire je suis pas un cas isolé, je suis pas un feignant, etc. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. La mode, c'est quoi aujourd'hui? La mode, c'est de faire du sain, de faire du sport, d'être vraiment au top au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Et le problème, c'est que la mode n'est pas un mode de vie. La mode n'a jamais été un mode de vie. C'est toujours quelque chose d'éphémère, d'assez court dans le temps, et ça n'est pas un mode de vie. Pensez bien une chose, tous ceux qui ont ce comportement que je viens de décrire, pensez-vous que c'est tenable toute votre vie? Est-ce que vous voyez dans 10 ans avoir encore le même processus, c'est-à-dire de mener une espèce de double vie où finalement vous existez réellement dans aucune des deux? Parce que Si par exemple vous vantez la bonne nourriture, la nourriture saine, que vous mangez 100% bio et tout le temps clean, et qu'en réalité c'est pas vraiment le cas parce que quand vous faites vos courses, vous achetez je sais pas des produits sucrés, des produits transformés et tout parce que vous êtes pas capable de tenir une diète correctement. Enfin, vous vous sentez pas capable de tenir une diète correctement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez faire vos courses, vous êtes anxieux de croiser quelqu'un qui vous suit et qui regarde dans votre caddie, qui se dit « Oh là là, mais c'est quoi qui consomme celui-là ou celle-là » Finalement, c'est des mythos. Mais en fait, on s'en fout. Parce que leur montrer ça, ce serait leur montrer aussi que ces personnes-là peuvent avoir des petits écarts de conduite et réussir. Et comment, alors, je vais vous donner une clé pour terminer le podcast, mais pour toutes les personnes qui sont dans cette configuration-là, est-ce qu'il y a, alors déjà, il y a l'histoire de la compensation que j'expliquais sur les, sur le problème de, des repas du matin et du midi qui sont souvent trop faibles. Enfin, tous les repas qui sont facilement gérables par l'individu sont souvent trop faibles en prévision des repas ingérables. Donc ça, déjà, il faut commencer à régler ça. C'est-à-dire que si on arrive en fin de journée avec un total calorique qui est plutôt proche de notre maintien, on aura beaucoup plus de chances de résister à la tentation. Sauf que le bug qui se crée dans la tête des gens, c'est qu'ils pensent que s'ils mangent plus le matin et le midi, ils vont quand même craquer le soir. Sauf que ça, c'est une angoisse, c'est une anxiété d'anticipation. C'est-à-dire qu'ils anticipent le pire alors que ça ne s'est pas encore produit. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais été dans cette configuration-là. La deuxième clé que j'aimerais donner, c'est que apprenez réellement à cuisiner. Alors moi, ce n'est pas de la grande cuisine que je fais. Vous pouvez voir sur mes assiettes, ce n'est pas de la grande cuisine. Mais en tout cas, ce ne sont pas des choses que vous retrouvez dans les diètes de tout le monde. Pourquoi ? Parce que j'ai appris la nutrition, je sais ce que m'apporte ce que je mange, et j'ai pu faire des associations pour que ce que je mange soit, des aliments, entre guillemets, plaisir pour moi. La lassitude, par exemple, manger des brocolis, des flocons d'avoine, du blanc de poulet, des choses comme ça, je peux comprendre parfaitement que ce n'est pas tenable sur le long terme. Et moi, personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que j'aime manger d'autres choses. J'aime manger de l'avocat, même si c'est calorique. Pourquoi ? Parce que je sais ce que m'apporte l'avocat et j'ai aucune raison de l'éliminer. J'aime manger des œufs entiers. J'aime manger un petit peu de viande de temps en temps. Un poulet avec la peau de temps en temps. Pourquoi pas ? Mais sur le long terme, c'est toujours de la progression et du positif. Parce que le choix des aliments, le rythme de mon alimentation fait que ça va dans le bon sens. C'est un petit peu comme, je ne sais pas s'il y en a qui suivent un petit peu la bourse, la finance, etc. Bon, moi, je ne m'y suis pas vraiment intéressé, mais j'avais entendu que, en fait, les actions, la bourse, l'économie, tous ces trucs-là, quand on investit, si on regarde sur le court terme, on a l'impression qu'on va perdre beaucoup, etc., que c'est très dangereux, mais si on analyse sur 10-20 ans, on se rend compte qu'il y a eu plus 5 ou plus 8%. Donc en fait, la bonne nourriture, c'est la même chose. Il faut regarder sur le long terme. On va avoir des creux de vagues, on va avoir des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments où on va craquer un petit peu. Mais sur le long terme, ça a été beaucoup plus bénéfique que négatif. Parce qu'en règle générale, les personnes qui ont tendance à craquer, qui ont cette double vie et qui commencent à culpabiliser de mal faire quand elles sont en mode privé, c'est des personnes qui ont tendance à annuler toutes les bonnes choses qu'elles font. C'est-à-dire que leur cerveau automatiquement se concentre que sur le négatif. Le cerveau va oublier la séance de sport du matin, va oublier les repas sains qu'ils ont fait toute la semaine et vont se concentrer que sur les repas d'écart. Et se concentrer que sur ça, que sur ça, que sur ça. Alors que finalement, ça représente peut-être que 30% de l'alimentation globale. Alors ok, 30%, c'est pas rien. Mais ça permet quand même de relativiser. C'est pas 90% de mauvaise nourriture contre 10 de bon. Et ça vous permettra réellement, à tous ceux qui ont ce comportement-là, de commencer à accepter que ce comportement-là, c'est un comportement d'être humain, d'avoir des hauts et des bas. Mais l'assumer, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une mode où il faut qu'on soit des Superman pour les hommes et des Superwoman ou des Wonder Woman pour les femmes. Le problème, c'est que ça marchera pas longtemps. Soyez honnête. Ça marchera mieux. Et surtout, si vous avez un business dans le domaine, soyez honnête. Ne faites pas croire aux gens que vous allez aider, que vous êtes parfait, parce qu'ils vont se calquer sur ça et avoir comme objectif quelque chose qui, concrètement, n'existe pas. Montrez-leur plutôt que c'est possible d'y arriver avec des hauts et des bas. Et là, ils vont commencer à s'identifier à vous et se dire « Ok, je suis un être humain, je peux y arriver moi aussi. » Bon, j'ai des défauts, j'ai du mal à résister, je sais pas moi, à la barre de chocolat tous les jours. Eh ben, je vais travailler là-dessus, mais à mon rythme. Mais j'accepte que j'ai ce défaut-là. Moi, mon défaut, enfin, je sais pas si ça pourrait l'être, mais pendant longtemps, ça a été de manger un fast-food par semaine vraiment très calorique. C'était pas réellement un défaut, je me faisais plaisir, j'aimais ça. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi, je suis devenu plus mature, j'en sais rien, mais je me suis tourné vers d'autres aliments plaisir. Maintenant, c'est des sushis. Alors, c'est pas mieux quand on voit comment c'est préparé, mais moi, au niveau digestif et au niveau calorique, c'est moindre. Après, j'avais tendance à faire des... alors ça, c'est quand j'étais avec mon ex-compagne, à faire des régimes tellement restrictifs. C'était au début de ma progression, ça, c'était en 2009, 2011, Donc, non, c'était, ouais, c'est à peu près entre 2011 et 2012 quand j'ai commencé à vraiment être bien sec. Je faisais tellement restrictif et tellement des trucs de compensation, comme j'expliquais tout à l'heure, que mon ex-compagne s'achetait des céréales sucrées pour le matin, parce qu'elle, elle faisait pas vraiment la diète. Et ben, il s'arrivait le matin, elle se réveillait, elle ouvrait le placard, il n'y avait plus de céréales. Et durant la nuit, et ben, en fait, j'avais défoncé ces céréales parce que durant la journée, j'avais été tellement bas en calories, j'avais fait tellement de sport que mon corps, il a réclamé des calories. Et étant donné que j'avais une forte baisse de volonté due à ma journée assez épuisante, la première chose qui m'est tombée sous la main, ça y est passé. J'ai pas craqué sur du blanc de poulet et des haricots verts. J'ai craqué sur le truc le plus dense et le plus calorique qui se manifestait devant moi. Donc voilà, je pense que c'est un tout et c'est une certaine maturité qu'on va acquérir au fur et à mesure de notre progression. Moi, enfin voilà, j'y suis déjà passé. Donc aujourd'hui, j'ai aucun problème à assumer de manger mal de temps en temps. Pourquoi? Parce que je sais clairement que mon alimentation, à 90%, elle est saine, elle est bonne, elle est contrôlée et que le plaisir pour moi a toute sa place. Dans une diète, le plaisir, l'alimentation plaisir a toute sa place. Il faut juste que ce soit cohérent et que quand on se fasse un plaisir alimentaire, qu'on soit pas derrière à culpabiliser. Parce que ça, c'est une erreur et pour moi, il n'y a aucun bénéfice. Les repas de plaisir ont toute leur place. Rappelez-vous bien cette chose-là. Ils ont toute leur place, mais encore une fois, faut pas que ce soit quelque chose qui soit éphémère et qu'immédiatement après, on culpabilise. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup trop souvent et que beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu dans une prison où elles peuvent réellement jamais profiter ni de leur vie privée ni de leur vie publique. Voilà, donc trouvez votre place, la vraie place, et puis vous verrez que tout se passera pour le mieux. Je vous laisse ici, et puis si vous avez des questions un petit peu plus épineuses par rapport à votre problématique, envoyez-moi un mail. Si vous avez quelque chose à dire de manière publique, un commentaire, ça suffira. Je vous dis à plus, bye, et n'hésitez pas à aller consulter mes formations. Tous les liens sont en description. Salut!